Bonjour, donc Adel Selmi, je suis anthropologue, je travaille à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Je travaille sur des questions liées à la production de connaissances et gouvernance de biotechnologie animale. Donc avec mon collègue François Auchereau, on va présenter une petite enquête, car on n'est pas spécialiste de halal, sur le mode d'existence de halal par rapport à la norme bien-être. Car étant donné, nous, on a tout un projet sur comment gouverner le vivant par des normes, par des standards portés par l'Europe, car l'Europe, elle a fait le choix d'éditer des directives, des normes où les États membres, après, ils ont l'obligation de traduire dans leur réglementation, voire les acteurs privés aussi de proposer des normes privées et publiques. Donc, dans ce cadre-là, on a voulu voir le mode d'existence de la halal en France, avec l'arrivée de cette nouvelle problématique, cette nouvelle question de bien-être animal. L'Europe, elle a commencé au départ par réglementer le domaine de transport. Depuis les années 60, l'Europe, au départ, il y a tout un chantier, en fait, ça couvre les différents domaines, transport. Après, on arrive à l'élevage dans les années 70, et après, le domaine de l'abattage. Et dans ces différents, soit pour l'élevage, soit pour l'abattage, il y a la question de protection, de la prise en charge de la question de douleur animale. Donc, il ne faut pas que l'animal, il souffre. Et quelque part, c'était d'où la question, l'arrivée de la question de la nécessité de sommer l'animal, la question de la problématique de l'étourdissement, pour que l'animal, il ne souffre pas. Et dans cette problématique générale, elle était proposée pour les abattoirs conventionnels, classiques. Et la question de halal ou de kasher, elle n'était pas prévue dans la réglementation. Et à partir de là, on va se trouver à travers cette problématique de la prise en charge de la question de douleur animale, quelque part, la question de kasher et halal, elle va avoir un statut d'exception au départ. Exception dans le sens, elle n'a pas un statut de droit, mais quelque chose, c'est une pratique à part. Étant donné, pour les juifs, car il y a une auto-organisation qui était bien établie, donc le kasher, il va prendre statut d'exception. Pour le halal, on va trouver dans une question de sécurité au départ et d'une pratique clandestine. Car il y a un abattage qui n'est pas du tout cadré, on est dans la clandestinité, il y a des abattoirs qui ne respectent pas, enfin un abattage qui ne respecte pas le règle de base de santé. Au départ, on est dans une problématique pour le halal, comment amener un domaine de la clandestinité vers la régulation par l'État et le contrôle par la préfecture d'aménager l'espace, et à partir de là, il y a toute une démarche qui va déclencher avec quel partenaire, car on va être confronté que par rapport à l'islam, il n'y a pas un interlocuteur comme dans pour le judaïsme, donc il n'y a pas une organisation, il n'y a pas des représentants officiels, et là on va déclencher toute une procédure, comment on va fabriquer toute une chefferie avec qui on va parler. Et là, je donne la parole à mon collègue François Auchereau qui va entrer sur la question de halal et la question de certification et comment on a et le mode d'existence dans la législation en France.
Oui, donc en fait, ce qui était intéressant dans finalement la proposition que nous offrait le colloque, c'était d'étudier des dynamiques normatives qui procédaient un peu, qui était un peu conjointe, puisqu'au départ, comme Adèle l'a noté, le halal a un statut assez à part. Et en fait, c'était intéressant de voir en fait que les questions qui se posaient à l'efficacité de la norme bien-être étaient similaires aujourd'hui à celles qui se posent à l'efficacité de la norme halal. En fait, Adèle parle d'une norme bien-être, mais c'est quelque chose qui s'est construit depuis longtemps. Et au départ, c'est plutôt un principe, je dirais une recommandation, qui progressivement va se traduire dans des réglementations. Mais d'une certaine manière, il y a une grosse difficulté à savoir comment on instruit finalement la réglementation, comment on instruit la norme en matière de bien-être animal. Donc c'est pour ça qu'au départ, on s'attache à des situations particulières. Des situations particulières qui sont source d'un certain nombre de conflits de la part d'associations. Et donc c'est pour ça que... Je reviens parce que là, il faut quand même que j'explique un peu la dynamique de la norme bien-être. Donc au départ, pour résumer, donc comme Adèle disait, on était dans une logique spécifique, mais en fait dans une logique de moyens, c'est-à-dire qu'on essaie de définir un cadre légitime d'exercice de l'activité. Et c'est en ce sens qu'effectivement, il va y avoir tout un débat côté halal pour réintroduire, dans une certaine manière, les pratiques d'abattage rituel, puisque là, en fait, on parle plus d'abattage rituel plus que de halal en général, dans un cadre, un cadre légitime, qui sera celui de l'abattoir. Et donc, en fait, tout le processus de normativité du bien-être va consister à effectivement essayer de progressivement monter en généralité dans cette injonction de bien-être animal. Donc on est dans des situations spécifiques, et on a bien conscience qu'on est dans des situations spécifiques, mais d'une certaine façon, on a la visée d'instruire, enfin d'enjoindre les acteurs à avoir un principe d'action. Et en ce sens, je dirais progressivement d'aller vers une éthique du bien-être animal. Une éthique du bien-être animal qui consiste pas simplement à suivre des recommandations détaillées, mais à adopter une posture. Et progressivement, cette posture, elle va être guidée par la manière dont on peut évaluer le comportement de l'animal. Et donc, dans un premier temps, ça va être d'inscrire les différents éléments dans un plan d'action global. Et ce plan d'action global, en fait, d'une certaine manière, il essaye de construire ses propres référentiels cognitifs sur l'animal. Donc tout le débat va être de savoir quelle est finalement la posture, je dirais, dans le cas du bien animal, la posture qui convient de l'animal. C'est-à-dire que quelles sont ses réactions, comment peut-on évaluer ses comportements, etc. Et par rapport à ça, il y a une énorme mobilisation de la science du bien-être animal. C'est-à-dire qu'on définit le bien-être animal comme une science et avec un enjeu de définir des indicateurs, des référentiels cognitifs qui guident l'action des personnes. Et d'une certaine manière, c'est vraiment le projet... je dirais, de la réglementation qui se dessine, c'est vraiment de, finalement, construire une forme de panoptique par les indicateurs, panoptique qui instaurerait une forme d'autocontrôle, d'autosurveillance des acteurs, et pas simplement les acteurs professionnels, mais aussi les consommateurs. Donc, d'une certaine manière, par le biais de ces indicateurs, de mobiliser les consommateurs sur la question du bien-être. Parce que la grosse difficulté, c'est cette mobilisation des consommateurs sur les enjeux bien-être qui, d'une certaine façon, n'est pas un levier suffisant pour amener les professionnels à intégrer cette démarche éthique du bien-être animal dans leur démarche. Et par rapport à ça, la logique du halal procède également d'une mobilisation des consommateurs, hein, et de la définition d'indicateurs, de référentiels qui sont pertinents. Donc par rapport à ce que présentait rapidement Adèle, je dirais au départ, il s'agit de sortir effectivement la pratique de l'abattage rituel de sa clandestinité en créant finalement une structure légitime d'agrément et de validation. Mais en fait, cette structure d'agrément, elle ne peut aller au-delà de l'abattoir. Et en fait, tout l'enjeu, c'est effectivement justement de toucher cet espace des consommateurs, cet espace finalement de la transformation des produits. Et donc, c'est par rapport à ça que, parallèlement à cette, légitimation, institutionnalisation de la pratique d'abattage rituel dans les abattoirs, on a un développement très important d'une certification privée par des acteurs qui, en fait, oscillent entre deux cas de figure. Soit ils sont finalement légitimés par l'institution, par l'État français, en tant que déjà organisme d'agrément des pratiques, et donc ces organismes d'agrément ont des filiales privées qui gèrent la mise en marché des produits, et enfin la mise en marché et la certification, c'est-à-dire quand je dis la mise en marché, c'est-à-dire la certification des produits qui sont mis en marché par les différents intermédiaires. Et en parallèle, il va y avoir un certain nombre de challengers qui vont se positionner au nom des consommateurs musulmans, sachant qu'en fait, ça a été étudié beaucoup, cet aspect-là a été beaucoup étudié par Florence Bergeau-Blaquer, mais sous couvert d'une nouvelle tranche de consommateurs musulmans, tous ces organismes de certification dont AVS, à votre service, est une figure particulièrement représentative, vont développer tout un processus de certification qui rejoint par certains points le processus de la cacheroute juive, dans le sens où, contrairement aux organismes institutionnels qui, d'une certaine façon, délèguent le pouvoir de contrôle à l'État, au service vétérinaire, finalement à l'appareil institutionnalisé de production et d'abattage, ces organismes vont se définir comme étant leur propre vérificateur de la conformité du processus. Et autour de ça, ils vont définir un positionnement marchand comme étant finalement comme vendant du vrai halal, par opposition à un halal qui serait détourné un peu de sa vocation première, dans le sens où il serait obligé de concilier avec des impératifs d'abattage qui seraient institués dans les pays européens. Et donc, par rapport à ça, la mosquée de Lyon, qui est une des trois mosquées accréditatrices, va adopter un profil hybride. En ce sens qu'elle est à la fois agrément, mais en fait elle va développer tout un discours critique sur les processus d'abattage, tout en cherchant à concilier une voie médiane en développant une propre cellule d'expertise de validation des procédés d'étourdissement qui peuvent être faits en abattage, puisqu'en fait toute la question sur le halal, outre la qualification des produits à halal, va être la question de l'étourdissement préalable des animaux avant la saignée. Et comme le disait Adèle, c'est la question de la douleur animale, de la souffrance animale. Est-ce que l'animal souffre au moment de la mise à mort ? Et en fait, tout le débat va consister à essayer de dire que si l'animal est étourdi avant la mise à mort, ou au pire, juste après, il souffrira nettement moins, voire peu, par rapport à des situations de saignée où, par rapport à différentes analyses qui sont faites, l'animal souffrirait. Et il y a toute une controverse scientifico-technique qui se développe, qui est énormément équipée par les travaux, la filière cacheroute, la filière juive, qui depuis un certain temps doit justifier d'un certain nombre de positionnements. Donc en fait, par rapport à cela, il y a tout un enjeu autour de la certification de l'étiquetage à travers la mobilisation des consommateurs. Oui, à travers la mobilisation des consommateurs. De toute façon, si vous me passez le papier, je m'en doute. Je n'ai pas besoin de le dire.
Oui, non, mais parfois, il y a deux minutes, parfois, il y a cinq minutes.
D'accord. Donc, en fait, je dirais, toute cette pression qui va être mise sur les indicateurs, la manière dont l'animal va exprimer plus ou moins une conscience, une souffrance, une douleur, en fait, vont se traduire par un renouveau des demandes d'étiquetage, à la fois par les consommateurs musulmans, parce que d'une certaine façon, ils veulent avoir la garantie que les procédures sont bien respectées, par les associations de protection, parce qu'elles veulent avoir la garantie que les produits halal ne se diffusent pas un peu partout, parce qu'en fait, un des gros aspects de l'institutionnalisation du halal, c'est que d'une certaine façon, au moment où l'État commence à légiférer sur l'abattage rituel, c'est que c'est un enjeu de développement rural, c'est un enjeu de développement pour des petits abattoirs ruraux qui sont confrontés à la concurrence du marché mondial et qui voient dans le halal un nouveau marché qui leur permet d'écouler des produits. Alors, bien sûr, on dit classiquement que les musulmans, plutôt les juifs, consomment les avants des animaux, enfin des ruminants, et les Européens plutôt de souche, plutôt les parties arrière. Mais c'est en fait, c'est plus compliqué. Je veux dire, c'est un marché. Je veux dire, les musulmans consomment aussi plus de viande. Ils sont susceptibles aussi de manger des produits nobles avec l'élévation des niveaux de vie de la population musulmane en France. Et donc tout ça fait que c'est un marché de développement pour un certain nombre d'abattoirs, et les filières sont très soucieuses de maintenir finalement cette possibilité de jongler entre les différentes productions, et d'où cet enjeu d'étiquetage de la part des associations de protection animale pour éviter que trop de produits halal partent dans le circuit traditionnel. Et en fait, par rapport à cet enjeu d'étiquetage, je veux dire, et de contrôle et de qualification du process d'abattage et non plus simplement du produit, se développe tout un certain nombre de chartes par les différents organismes certificateurs qui, en fait, je dirais, investissent de façon différenciée le processus de production pour aller enquêter et vérifier que les produits sont bien conformes. Et donc, en fait, je dirais, il y a des jeux, je dirais, il y a certaines marques qui vont, comme par exemple Isla Delis, vont utiliser AVS pour se développer et exister sur le marché, pour ensuite choisir un certificateur moins exigeant une fois qu'elles sont installées sur le marché. Et donc, il y a toute une ambiguïté de définition de ces certifications en fonction des stratégies commerciales des firmes et des attentes des consommateurs musulmans. Et donc, en fait, d'une certaine façon, à travers cette question des critères d'évaluation qui se renforcent du côté de la réglementation bien-être et qui d'une certaine façon, deviennent d'une certaine façon un enjeu des chartes halal. C'est-à-dire que de plus en plus, les chartes vont être amenées à définir de façon cognitive, de façon précise, les éléments sur lesquels elles appuient leur évaluation. Et donc, on n'est plus simplement dans la critique d'une logique de moyens, c'est-à-dire la critique, c'est est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits, est-ce qu'il y a une présence des contrôleurs, des organismes de certification, est-ce que le tampon qui est donné n'est pas factice, mais de plus en plus devoir justifier sur la base d'une expertise technique la qualification de la conscience de l'animal et de sa souffrance ou de sa douleur plutôt au moment de la mise à mort. Et donc en fait le débat là actuellement, la réglementation qui jusqu'à présent considérait le statut de l'abattage rituel comme une exception, commence à l'intégrer mais de façon un peu indirecte. C'est-à-dire que de façon directe, ça reste un statut d'exception, mais de façon indirecte, par le biais de l'autocontrôle, de l'assurance qualité, de la mise en place d'indicateurs d'évaluation à différents niveaux, il y a une injonction qui est faite aux filières d'abattage rituel de redéfinir leur cahier des charges en termes d'indicateurs, en termes d'éléments d'évaluation de la conscience animale et non plus en termes d'évaluation du process. Et donc, par rapport à ça, il y a un véritable enjeu de redéfinition du statut de l'animal dans la tradition musulmane par rapport à une tradition qui, à travers les différents textes, exprime un attachement à l'animal, mais sur un plan, je dirais, plutôt de moyens, c'est-à-dire il faut nourrir l'animal, il faut veiller à ce qu'il soit bien, mais... je veux dire, rien n'est dit sur la manière de qualifier le comportement animal. Et donc, tout l'enjeu du devenir, de la conjonction de l'abattage rituel avec cet environnement, de réglementation bien-être animal, impose une réflexion sur le registre cognitif de l'animal dans le halal.
Merci beaucoup.